Bonsoir tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKUT à votre émission d'art et de culture préférée du vendredi, Café. C'est Alex qui vous parle en ce vendredi 11 février. Ce soir, l'émission sera consacrée entièrement à l'entrevue réalisée il y a quelques semaines avec l'auteur et illustrateur Étienne Prudhomme. Dans cette heure, nous apprendrons à connaître le travail de cet artiste en parlant de sa plus récente création, la bande dessinée Bang, 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 le crépuscule des amochés, paru chez Mécanique Générale en octobre dernier. Aussi, à l'instar de la bande dessinée, l'entrevue sera ponctuée de musique pour nos fidèles auditeuristes mélomanes. On va d'ailleurs commencer cette entrevue par une pièce tirée de la playlist proposée par Étienne pour mettre la table avec A Divine Image de David Axelrod, donc pièce musicale tirée des films de genre noir, tout comme la bande dessinée, vous allez voir. Allô, Étienne.
Allô.
Merci vraiment d'avoir fait du temps dans ton agenda pour cette entrevue. Ça fait quelques mois qu'on essaie de se voir.
Oui, absolument.
Écoute, on va pas passer par quatre chemins. On va entrer directement dans le vif du sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup de thématiques que je veux qu'on aborde ensemble. On va parler donc de ta deuxième et plus récente bande dessinée, Bang Bang Bang, Le Crépuscule des Amochés. Dans cette bande dessinée, librement inspirée de l'ambiance des films noirs et d'un univers gothique, on y suit l'histoire d'Adrien, un boxeur déchu dans un univers mystique, sombre et infernal dans lequel la misère humaine est omniprésente. Pour se sortir d'une dette, Adrien se voit obligé de participer à un cambriolage avec une bande d'individus tout aussi écorchés les uns que les autres. Cambriolage manqué s'il en est, il s'ensuit la fuite du protagoniste en périphérie du Pont Jacques-Cartier, dans lequel le jeu des apparences prend un rôle très important, avec notamment plusieurs flashbacks, mais aussi plusieurs allusions à un inconscient troublé et troublant. Tout ça fait dans un dessin vraiment remarquable, mais ça, on va en parler plus tard en entrevue. Alors, Étienne, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui t'a inspiré à créer cet univers?
Oui. Bien, superbe présentation, tout d'abord. Qu'est-ce qui m'a inspiré dans cet univers? Bien, je pourrais dire que, tout à l'heure, c'est une vieille idée, dans le sens que c'est une idée que j'ai eue quand même un certain temps, mais assez peaufinée avec le temps parce que au départ, j'avais des envies de faire une espèce de truc très... plus classique, je pense. Puis là, ben en fait, je me suis un peu éloigné en commençant à faire de la recherche sur... ce que j'ai envie de faire picturalement, mettons, au niveau du dessin. Puis là, mm-hmm. j'ai trouvé comme des avenues... ouais, c'est là que j'ai trouvé qu'en fait, que le surréalisme, je peux l'intégrer à l'histoire. Parce qu'en fait, l'histoire, écrire une histoire de film noir... J'ai fait mes recherches, mettons, en film noir, puis mm-hmm. j'ai écouté pas mal ce qui s'est fait dans film noir, puis j'ai aussi trouvé bien le moyen de tester un peu ce qui se fait en film noir, parce que... Mais, c'est très ouais. misogyne, très facho. Mm-hmm. Et j'ai essayé de finalement me dire « Ah, je vais peut-être aller ailleurs que là-dedans. » T'sais.
OK. Puis pourquoi ce genre-là, justement? Ouais. Comme en quoi cet univers-là, comme en quoi tu avais envie d'habiter cet univers?
Ben, OK, bonne question. Je suis un grand fan de cinéma.
Mm-hmm.
Puis c'est aussi, genre, un des trucs que j'ai reçu il y a longtemps. Je pense que ma mère qui m'avait donné un coffret de films noirs. C'est comme vraiment, vraiment, un coffret DVD là, de films noirs. Puis c'était vraiment comme des films de très mauvaise qualité, mais avec, tu sais, une vision. C'est vraiment comme le discours cinématographique, là, par le langage, en fait.
Okay.
Que je trouve génial, en fait. Plus que le discours qu'il y a dans le film, c'est plus vraiment le caractère visuel, tu sais. Les barres noires qui autour des yeux, quand on plonge vers le personnage, comme dans son passé, ou dans le sens que, tu sais, l'archétype noir et blanc très poussé, la ville qui est très négative,
ouais.
La pauvreté aussi. Après ça, c'est ça, il y a d'autres codes, mais la pauvreté dans la ville, c'est un truc qui m'a toujours habité. Puis ça, puis Montréal. Mettons, parce que quand j'ai commencé à habiter à Montréal de par moi-même, ben, j'ai vraiment aimé rencontrer des coins de rue, des quartiers. Puis là, ben, j'ai commencé à me dire « Hey, il faut que je fasse de quoi avec ça? » Puis mettons que je dirais qu'au départ, je voulais faire de quoi plus début du 20e siècle. Puis finalement, je me suis dit non, finalement, je vais m'en aller vers, c'est ça, les années 60. Je sais pas pour quelle raison. Fin 50, mm-hmm. plus. Je sais pas pour quelle raison exactement. Je dirais que ça m'a comme pris. J'ai comme continué dans cette voie-là. Je vais je vais aller dans les années fin 50. Puis j'ai trouvé de la documentation. Puis c'est allé en lien avec ça. Puis... c'était à la base, c'était de rejoindre l'univers graphique du film noir que je trouve génial, genre, et le ramener avec ce qu'on a comme ville, mettons.
OK. Mm. Puis, mettons là, qu'on retourne à la base un peu, là, comme depuis quand tu dessines, depuis quand, ça a l'air de quoi, mettons, ta formation. Je sais que tu es beaucoup autodidacte. Est-ce que...
Ben, je dessine depuis mon enfance. Après ça, j'ai eu quelques perte de confiance dans le dessin, parce que le dessin, c'est quand même un truc très solitaire, mais je sais pas, j'ai commencé à dessiner tôt, puis j'ai fait une session au cégep du Vieux-Nord en plastique.
Okay.
Complètement haï ça. J'ai pris une sabbatique, puis après ça, j'ai été en cinéma au cégep. Puis là, c'est là, en fait, que j'ai vraiment compris, en fait, ce que je pouvais faire, c'est que, en fait, le dessin sans le contexte ou sans le contenu m'intéressait pas. Je ne voulais pas devenir un dessinateur. Un dessinateur qui sait pas dessiner un sujet, ça m'intéresse pas. Ça m'intéressait d'avoir des sujets. Fait qu'en fait, en cinéma, j'ai complètement découvert le médium, faire les films, la recherche du film, la cinématographie aussi. Puis dans le fond, ben, c'est ça. En fait, c'est ma tentative de faire du cinéma, mais par le dessin. C'était comme. Mais j'ai ça, j'ai essayé de faire les films, puis ça, finalement, ça n'a pas marché, fait que j'ai fait de la BD.
Très nice. Justement, j'avais une question, j'avais préparé une question peut-être plus pour la fin, mais j'ai envie de la
Vas-y.
poser maintenant. Pour ceux et celles qui ont pas encore, qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu Bang Bang Bang, tout juste avant le début de la BD, tu convies les lecteuristes à écouter la trame sonore pour accompagner la lecture. Ce que moi j'ai fait, puis j'ai vraiment apprécié l'expérience. J'ai trouvé ça super original, puis ça m'a permis de comme vraiment rentrer dans la BD, la lire d'un coup, puis. Puis justement, je me demandais en fait d'où t'étais venue cette idée-là, puis si c'était pas ton amour du cinéma qui t'avait poussé à proposer ça.
Oui, absolument, parce que dans le fond, il y a beaucoup de musique de cette trame sonore qui vient de films, à la base aussi. Puis, parce que j'ai écouté plein de films dans les dernières années qui m'ont servi d'inspiration à la chose. Puis aussi que quand je dessine, quand je travaille sur cette bande dessinée-là, j'ai travaillé avec des trames sonores ou quand j'ai fait de la recherche d'images, j'ai trouvé des thèmes sonores qui fonctionnent avec l'époque. Puis, ça, moi, c'est en fait, ça faisait partie des premiers morceaux de cette passion-là. C'était juste de chercher, OK, mettons, si je fais une histoire qui se passe en 70, ça ressemble à quoi la musique qui joue à radio? Ça ressemble à quoi l'actualité? Fait que là, tu sais, j'étais allé fouiller à l'époque aussi un peu sur des journaux. À l'époque, quand je dis, tu sais, c'est comme il y a peut-être 5-6 ans, tu
OK.
sais, quand je faisais de la recherche à temps perdu, je
Pour cette
checkais, ah, OK,
vidéo-là.
ouais, pour cette
OK.
BD-là, mais tu sais, sans savoir que ça allait être elle, mais tu sais, je cherchais un peu, tu sais, musique, genre, actualité, genre, photo, comment les gens parlent, fait que j'ai écouté des films de l'ONF, comment les gens parlent à l'époque, mais tu sais, j'ai eu de la misère à le plugger dans mon travail parce que j'ai pas eu le temps,
Quand même.
mais j'aurais aimé ça, pouvoir mettre la sonorité parce que mes grands-parents parlent un peu comme des années 50. Il y a une
OK.
petite différence d'accent que j'ai cru remarquer, surtout auprès des gens plus populaires, les conditions de vie plus populaires. Une petite façon de mâcher ces mots à la 50 que j'ai retrouvé chez mes grands-parents. Mais c'est ça, c'est très. La documentation, c'est très large, fait qu'on peut se perdre, mais en fait, c'est ça, fait que j'ai trouvé de la musique par rapport à ça, puis je trouve que musique, dessin fonctionne tellement bien, musique, image fonctionne tellement bien que j'essaie de faire un rapport avec ça, puis en plus, ça ajoute de l'ambiance, je veux pas, c'est quand même une BD un peu aux allures terribles, comme tu as dit tantôt. Fait que la musique, il fallait qu'elle aille un peu en ce sens-là,
Ah.
puis je pensais un peu ça que ça a fait.
Non, mais c'est vraiment réussi parce que ça fait comme. Mais pas une expérience cinématographique, mais un peu, oui, tu sais, comme multimédia. J'aime pas vraiment ce mot-là, là,
Ouais,
mais.
c'est.
Mais oui, mais c'est ça, tu as parlé d'histoire parce que ton histoire se campe dans les années 60. Comme tu dis, il y a plusieurs référents. À cette époque-là, donc les codes vestimentaires, mais il y a aussi tu as choisi d'insérer des référents historiques, carrément, comme je pense au House Limited, qui
Ouais,
était
quand
cet endroit créé pendant la Deuxième Guerre pour emprisonner certains immigrants sur Sainte-Hélène. Pour te connaître de l'extérieur, je sais que tu es un féru d'histoire. Je me demandais à quel point c'est important pour toi. Ben, c'était important pour toi de camper les événements de ton récit en parallèle avec l'histoire de Montréal, comme ça vient aussi dans ta démarche de recherche, de ce que j'en ai compris.
ben. C'est parce qu'il y a aussi un truc très. C'est banal un peu peut-être de penser ça, mais. Pas de penser ça, mais de dire ça, mais tu sais, je trouve que c'est intéressant de. Quand tu fais une histoire, c'est intéressant d'ouvrir sur d'autres choses parce que si tu fais juste une histoire fermée sur elle-même, ben c'est bien, mais ça réfère à une époque ou à un moment. Ou... Puis en fait, c'est quand tu fais ta recherche, tu trouves plein de choses, puis. Ça m'a vraiment permis, en fait, de me dire, hey, il y a eu ça qui s'est passé sur les Saint-Hélène, j'aimerais ça en parler, tant qu'à faire une histoire qui se passe sur les Saint-Hélène. Parce que les dates ne coordonnent pas exactement, on va se dire, parce que c'est, si, mettons, je fais une histoire qui se passe en 58, mettons, ben, ces maisons-là datent de peut-être plus 45, 46, 47, sont peut-être 10 ans après, mais je veux dire. L'île Sainte-Hélène, c'est une île dans laquelle les gens vont marcher ou ils vont en voiture, ils vont checker le Grand Prix. Puis... Bon, moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire, hey, il y avait de quoi avant? Il y avait de quoi de weird avant? Il y a des trucs que les gens se rappellent pas, puis il reste juste quelques informations de tout ça. Fait que j'essaie de le mettre en parallèle juste pour qu'on puisse savoir qu'il y a autre chose. T'sais, que les rues sur lesquelles on marche cachent autre chose, cachent d'autres histoires. Ça dépend de où est-ce qu'on regarde, en gros. J'ai essayé de faire fonctionner d'autres choses dans une histoire qui est un peu hermétique, autour d'un personnage simple. Un simple personnage, juste un. C'est ça, d'essayer d'ouvrir sur. Non, il y a autre chose. T'sais. Le monde est fait de autre chose qu'une histoire de quelqu'un qui. C'est un peu hermétique, sinon, je trouve.
Ouais, mais non, mais c'est intéressant. Mais ça crée carrément de la perspective aussi.
Puis si je peux rajouter,
Mais
le
oui.
film noir est quelque chose de très hermétique sur la vision d'un personnage qui est souvent, puis c'est là que je trouve que c'est drôle, le principe de misogynie fasciste dans le film noir, c'est que souvent, c'est des personnages archétypales de bandits qui considèrent l'étranger comme une menace ou c'est un film sur le point de vue policier. Du point de vue policier sur les bandits qui amènent une nuisance dans la société, puis une tentative de rendre la société plus propre, mais en inversant un peu genre le prisme par lequel on regarde. Puis ça me déplaît beaucoup comme image, dans le sens que ça me tentait d'utiliser le principe, le code du film noir, puis de parler que ben, à l'île Sainte-Hélène, on a emprisonné du monde qui était complètement innocent, mais. Ça passe par les codes du banditisme, peut-être de pas de grand chemin, mais du banditisme.
De remettre en question un peu le bien et le mal, que c'est pas juste hermétique en fait,
Ouais,
là.
ouais.
Puis d'ailleurs, même le personnage principal, tu joues aussi avec un peu avec les codes du film noir, parce que là, il est pas complètement méchant, il est pas complètement. J'avais envie qu'on parle un peu, qu'on creuse un peu l'idée de ce personnage-là et de ses allusions justement à cet inconscient. Est-ce que tu peux. Ben, peut-être pour ceux et celles qui ont pas lu la bande dessinée, comme je le disais, comme le personnage principal, Adrien, et souvent se retrouve dans des. Ben, peut-être que tu pourrais l'expliquer, tu
Oui,
l'expliquerais mieux
ok.
que moi.
Là, tu parles bien du monde de la
Avec.
volière et du
Oui,
monstre
exactement.
dévoreur d'oiseaux. Ben, écoute, c'est un. On pourrait dire que c'est une forme de raccourci. Comment dire? Une forme de raccourci symbolique, peut-être, que j'utilisais avec ça, mais c'est vraiment pour faire. Pour faire un ajout de. Complexité, mais visuelle à quelque chose qu'on peut juste lire entre les lignes. Parce que dans le fond, ça aurait été un peu simple une histoire de quelqu'un qui dérobe un camion de banque, puis que ça se passe très mal. On a vu ça plein de fois. Puis en fait, je voulais ajouter la profondeur dans le personnage sans ajouter de personnalité au personnage. Je voulais juste ajouter une genre de profondeur de problématique. Dans le sens que, tu sais, là, clairement, on manque de liberté. Clairement, genre, dans ce personnage-là, on manque de. Mouvement, de possibilité de mouvement, on se sent coincé dans une réalité qui le surpasse, c'est-à-dire, par exemple, ayant perdu un combat de boxe, peu importe, mais qui a été subventionné par la mafia, en fait, ben, ça l'empêche de bouger comme il veut. Puis la mafia, effectivement, lui demande de rendre des comptes. Il se sent coincé. Puis dans le fond, ben, on pourrait représenter le monde de la volière, puis de la nuit, comme son monde inconscient, mais conscient quand même qu'il est dans une situation précaire où les oiseaux sont envolés, c'est-à-dire aussi sa liberté qui s'envole. Puis là-dedans, tu as un monstre qui vient dévorer ces oiseaux-là. Donc, tu as quelqu'un qui vient briser la liberté que lui voit qu'il pourrait avoir. Ou... En sens que c'est assez libre d'interprétation. J'ai décidé d'être assez libre moi-même dans ma propre vision de la chose en le construisant, mais c'était pour vraiment ajouter un peu de complexité à juste comme, OK, il se passe ça, puis c'est ça qui s'est passé, puis après ça, ils ont été là. Puis, t'sais, sens que c'est vraiment plus complexe. Je sais pas. J'ai perdu mon.
Non, mais non, mais pour vrai, c'est une excellente réponse. On va prendre une petite pause musicale et on vous revient dans quelques minutes.
Então reclamou quando eu lhe disse que meu bem morava no subúrbio. Em luxuoso no subúrbio não vou, pois sou chofer de praça e não parquei. Então implorei, peço, senhor chofer, leve-me por favor. Ela não tem culpa de morar no subúrbio. Quanto à chuva, obra da natureza. Então, chofer, dominado por mim, na borracha puxou, atravessando a lagoa. Quando eu obro o relógio e pedindo que colasse o acelerador ao tapete. Então, um chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popó só porque você quer dar show. Então, chofer, trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir o meu popó, não vou partir não, só porque você quer dar show. Puxou atravessando lagoa. Quando eu olhei pro relógio e pedindo que colasse o acelerador ao tapete. Então, chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popó só porque você quer dar show. Trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir o meu popô, não vou partir não, só porque você quer dar show. Então, chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popô, só porque você quer dar show.
De retour à votre émission Café sur les ondes de CKUT. Donc, on revient à cette émission spéciale, entrevue longue avec l'artiste Étienne Prudhomme. On vient d'entendre la pièce Chauffeur de Pracha de Louise Visconde, toujours tirée de cette playlist qui vient avec la bande dessinée dont on va vous parler un peu plus tard lors de cette entrevue. Mais juste avant la pause, on parlait, entre autres choses, que si le genre du film noir t'a inspiré pour créer, tu as quand même voulu briser certains codes de ces films, dont le sexisme notamment. Or, à la lecture de la bande dessinée, on peut pas passer à côté du fait qu'il n'y a pas de femmes vraiment là, qui occupent de rôles importants dans la bande dessinée. Je me demandais comment tu avais composé avec ça.
Ouais, ben d'accord. Écoute, j'ai trouvé ça quand même compliqué, en fait, même à la base, de faire des personnages, je dirais, qui avaient de l'allure, du point de vue, genre, de créer des personnages. Puis, en fait, je me suis vraiment posé la question, en fait, quoi faire avec ça. Puis, ça fait partie, effectivement, des codes de films noirs, et c'est rare que des personnages beaux... ni beau et profond et intelligent, et ainsi de suite. Puis en fait, je me suis retrouvé dans l'idée de me dire, ah ben peut-être que finalement, tant qu'à mettre pas beaucoup de... Ou, non, pas beaucoup, mais plutôt de faire des mauvais personnages, des personnages mal définis, pas clairs, pas évidents, puis je me suis dit, bon ben écoute, je vais essayer de garder ça au minimum, puis... de juste vraiment parler peut-être plus du concept de ce qui, moi,
parlait?
Ouais, non, pas me parler, mais dans quelle position, moi, j'étais, tu sais, dans mon propre sentiment intérieur pour essayer d'amener vraiment comme une lecture plus sensible à une condition de...
Je comprends.
D'humain, peut-être.
Quelque chose que tu connais, finalement.
Quelque chose que je connais plus d'humain, troublé, sans ajouter de personnages futiles. J'essaie de ramener au minimum, mais c'est vraiment pas évident de faire des personnages. C'est vraiment pas évident de faire de la création d'univers avec des personnages que tu portes un temps, puis après ça, oh, tu portes plus... même créer un personnage principal, c'est quand même difficile. En tout cas, j'ai eu beaucoup de misère. En fait, je pensais que ça allait être plus simple, faire des personnages, même avec des codes, à briser des codes qui sont majoritairement négatifs pour la femme dans les films noirs, mais j'ai vraiment pas tant été capable. Puis j'ai décidé de transférer ça dans... J'essaie de parler de plus de c'est ça, d'une certaine sensibilité qui m'habite. C'est-à-dire, mettons, par exemple, quand... mon personnage traverse le fleuve à la nage. Il vient toucher à des peurs personnelles qui l'amènent vers la peine plus que la colère, qui porte peut-être plus, au début du livre, il porte peut-être plus une certaine colère ou une certaine incompréhension. Puis il y a l'hold-up qui joue en filigrane aussi là-dedans, qui est comme aussi de la colère vis-à-vis une... C'est comme une réponse de colère, tandis que là, avec la nage, il est vraiment au bord de la peine, puis du bris complet de sa personnalité. Fait que c'était plus vers là que je voulais m'en aller, mais effectivement, très, très compliqué, briser le code.
Puis c'est vraiment pas une critique, en fait. J'étais juste curieuse de ce choix-là, mais j'imagine que comme créateur, ça doit être extrêmement difficile, un peu comme on a parlé off-mic, de faire des choix, des choix définitifs, puis aussi... Il n'y a pas 1000 pages là, à la bande dessinée, donc il faut garder ça concis.
Ça s'inscrit dans le temps, fait que le temps bouge, puis les idées bougent, puis c'est très dur de faire de quoi que tu peux porter en disant « j'ai pas fait d'erreur, c'est parfait ». En fait, c'est l'inverse. Moi, je me considère tout le temps dans l'erreur. Fait que là, je me dis « ok, bon, là, j'ai trouvé un moyen de m'arranger pour que, au moins que je sois capable de me sentir... près de ce que j'ai vécu quand je l'ai fait, mettons. Ça m'a amené des sensibilités semblables, mettons, je dirais.
Une des nombreuses particularités de cette bande dessinée est qu'elle se passe entièrement sur le pont Jacques-Cartier et en sa périphérie au point où le pont devient un acteur à part entière. Au-delà de la structure qu'il représente et que tu dessines avec une minutie et un talent infini, ceci dit, je me demandais pourquoi tu as choisi de situer l'action du récit sur le pont. Est-ce qu'il y a des symboles, par exemple, qui ressortaient du pont?
Excellente question. D'abord, j'ai adoré la lecture d'un livre qui a quand même une couple d'années qui s'appelle Un pont sur l'Adrina de. Oh my god, j'ai Ivo. Je ne m'en rappelle plus. Ivo. Ivo Andrić. Ivo Andrić, ok. Donc, Ivo Andrić a écrit un livre magnifique sur un pont qui se construit dans la Bosnie éloignée, très profonde, par les Ottomans. Puis en fait, les concepts sont géniaux là-dedans, en fait. Puis j'ai un peu utilisé comme ce que j'en ai compris de ce roman-là pour l'appliquer sur le pont Jacques-Cartier dans un sens que le pont, comme construction, est une forme d'abstraction du vrai monde, parce que dans le sens qu'on construit une structure qui traverse un cours d'eau qui est normalement très difficile à traverser à pied. T'sais, on ne peut pas traverser un cours d'eau, c'est quand même une frontière majeure pour un être humain qui n'a pas de nageoire, qui n'a pas de... Puis le courant du fleuve Saint-Laurent est particulièrement fort, puis c'est large, puis en tout cas, c'est une frontière bien importante. Avant le pont, il y avait des ferries, il fallait traverser en ferry, c'était pas si facile. Puis, en fait, c'est que le pont vient faire une passerelle qui vient accélérer le monde. Donc, les gens vont et viennent des ponts, prennent les ponts sans s'en rendre compte, mais les ponts, c'est des structures quand même extraordinaires, on pourrait dire. Uh-huh. Puis, dans le fond, ben, j'ai décidé d'utiliser ça aussi pour faire un parallèle avec... on vit un peu dans un monde abstrait. Parce que, étant donné qu'on vit dans... On surpasse la survie, on vit dans un monde qui est... On pense à d'autres choses quand on fait des actions très normales, c'est-à-dire aller faire l'épicerie, on fait à manger, mais on pense pas au fait que c'est difficile quand même avoir des légumes, avoir accès à de la nourriture. C'est toute une sorte d'infrastructure qui se met en place pour nous, mais on vit dans une sorte d'abstraction. Puis le pont, pour moi, représente l'abstraction. Parce que c'est abstrait au-dessus des eaux. Puis ça représente aussi une forme d'autorité parce que ça représente aussi la structure absolument fixe des choses de notre monde. C'est-à-dire, bon, il y a des gouvernements, il y a des lois. Puis ces lois-là sont souvent pas nécessairement fixées au sol. Dans le sens que, tu sais, c'est des lois des fois bien abstraites. Puis c'est tout le caractère de... la réalité, l'imaginaire, c'est un peu tout lié au pont, puis le pont est lié dans l'histoire aussi à l'imaginaire. Je trouve que c'est un beau parallèle du surréalisme, le pont, puis en même temps, c'est ça, ça fait un parallèle aussi en même temps au réalisme pur de genre notre société, dans l'abstraction.
Puis là, on parle de symboles, justement, mais c'est pas le seul symbole là, qu'on retrouve dans ta bande dessinée. Là. Il y en a plusieurs. On en a parlé un peu tantôt quand on était en petite pause. Est-ce que tu veux peut-être nous en parler un peu de ces symboles-là que tu as glissés un peu partout, des références culturelles? Là, on parlait tantôt des trois images horizontales qui faisaient référence au western.
Ouais, au film western. Ouais, exactement. Dans le sens que j'ai vraiment utilisé le format du livre est horizontal aussi, puis c'est un format italien, puis c'est rare parce que ça, je pense que les gens n'aiment pas tant, mais moi j'aimais bien utiliser l'horizontalité justement, parce que le principe du pont c'est assez horizontal, même si c'est vertical parce que ça monte, mais en réalité c'est un principe très horizontal, c'est que ça rapproche deux frontières, les frontières de deux mondes, puis c'est une longue ligne de loin, puis... Ça me rappelait aussi la pellicule en 70 mm du western. Mm-hmm. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a un cavalier, un policier à cheval, une police montée qui débarque en plein milieu d'une scène de hold-up sur le pont à cheval. Je trouvais ça quand même humoristique de mettre ça parce que c'est comme une référence un peu cachée. Puis en même temps, c'est un peu fou. Moi, j'avais jamais vu ça. Personnellement, un cavalier en train de tirer sur un pont dans le 20e siècle.
Mais, OK. Et ben là, justement, parce que là, tu parlais un peu du format de la bande dessinée et on peut pas faire cette entrevue sans parler de la qualité des images de cet album, composé de 66 cases. Chacune est minutieusement dessinée à la main. le mouvement des personnages dans un univers architectural calculé minutieusement offre des contrastes et des perspectives vraiment remarquables. On peut dire que c'est quand même un travail de moine là, que tu as fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta technique de création visuelle? On parlera de celle plus littéraire après.
Absolument. Mais tu as dit 66 cases.
Est-ce que c'est erroné?
Ben, j'ai beaucoup plus que 66.
Ah, c'est vrai?
Mais écoute, c'est 130 pages, 135 pages, avec à peu près ça, 5-6 cases par page.
Ah, effectivement,
en gros,
ouais.
C'est un peu plus, mais... je travaille sur papier. Je travaille sur papier Bristol. Je travaille à l'ancienne avec plumes et plumes techniques, pinceaux, angle de Chine. J'ai tout fait sur le papier, disons. Est-ce que tu veux savoir plus au niveau technique ou vraiment comme...
Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Ça t'a pris combien de temps déjà créer cette bande dessinée?
Ça a été très court. J'ai dû la faire dans un court laps de temps parce que je m'étais donné une limite très courte. Fait que je l'ai faite à peu près en 4 mois. J'ai dessiné les pages en 4 mois. Puis après ça, j'ai fait à peu près un mois et demi d'écriture... ajustement d'idées niveau littéraire, mettons. Puis ça a été difficile dans un sens parce que je voulais vraiment éloigner l'écriture de l'image dessinée, dans le sens que faire vraiment un décalage entre les deux pour amener une sorte de poésie. Bon, je pense que je l'ai fait quand même, mais j'aurais aimé ça pousser un peu plus loin, cette narration décalée-là, parce que j'aime bien quand l'image ne reflète pas ce qui se passe dans le texte, puis vice-versa. Mais j'ai essayé d'éloigner les deux, puis bon, ça a marché plus ou moins, mais avoir eu plus de temps, j'aurais pu le faire peut-être. Mais c'est ça, j'essayais de mettre vraiment un caractère plus poétique dans l'écriture, puis un caractère très... un cadrage très travaillé. T'sais, le sens que chaque plan veut normalement dire quelque chose d'assez cinématographique, là, t'sais, comme mettons... les contre-plongées, des plans larges, des plans rapprochés. Mm-hmm. T'sais, j'essayais de respecter quand même le discours du livre avec le discours du langage,
okay.
De l'image.
OK. Puis comme justement, je faisais référence à ces images très architecturales, ça sort d'où ça? Parce que là, on voit comme c'est vraiment... C'est tout est fait à la règle, c'est au détail près, est-ce que tu t'inspires de photos, d'où ça vient dans ton parcours, ce talent-là, en fait?
Ben, écoute, j'adore l'architecture, à la fois montréalaise, puis en général des choses, je sais pas pourquoi exactement, mais j'ai toujours été absolument appelé par juste le principe d'une corniche. T'sais, j'ai toujours trouvé que les reliefs d'une corniche me rappellent tellement... Je trouve que c'est tellement étrange que des gens aient décidé de faire ça. Puis en même temps, je trouve ça magnifique. Fait que je me dis, OK, ben faut que je le dessine le plus possible. Puis dans le fond, ben j'ai utilisé beaucoup d'images d'archives parce que le pont Jacques Cartier a changé à travers le temps. Dans le sens que dans les années 30, il a été construit pour... juste descendre jusqu'à à l'autre rive, c'est-à-dire à Longueuil. Puis, dans le fond, ils ont construit une voie maritime, ils ont remonté le pont. Puis là, il a fallu que je trouve des images parce qu'en fait, il y a des images de l'époque des années 30, puis il y a des images aujourd'hui. Puis là, je trouvais essayer de trouver des images de l'entre-deux, qu'est-ce qu'il y avait. Puis finalement, j'ai trouvé là-dedans des images des paysages. Fait que là, j'ai tout intégré avec certaines images d'archives. Puis j'ai été faire beaucoup de repérages moi-même en vélo sur le pont. Je me suis arrêté, j'ai pris des photos. OK, la structure fonctionne comme ça.
Attends, mais ça, t'as fait ça en 4 mois?
Non. Dans le 4 mois, j'ai fait beaucoup de recherches sur... Tu sais, comme mettons, des fois, j'avais besoin... OK, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour telle image. J'ai besoin de telle image. Fait que je faisais ma recherche. Mais mettons, j'ai eu l'idée il y a à peu près 10 ans. Fait que dans les 10 dernières années, j'ai fait de la recherche sporadiquement dessus. Fait que j'ai trouvé des choses, j'ai trouvé de la documentation. J'ai trouvé à peu près 2000 images à travers le temps pour faire cette bande dessinée-là. Mais tu sais, j'ai trouvé plein d'images qui sont inutilisables parce que... C'est des images qu'on connaît tous, qu'on a déjà vues du pont ou telle affaire. Mais des fois, j'ai trouvé des trucs vraiment précis, des photos, par exemple, de toute la cage de métal qui est comme pointue. Puis cette cage de métal-là m'a servi de parallèle au monde du rêve où tu as une volière, où tu as des oiseaux en cage. les oiseaux en cage aussi dans la réalité de la cage du pont qui est suspendue dans les airs. Fait que j'essaie de faire tout le temps passer à la fois la documentation que j'avais avec mon histoire, parce que les deux sont liés, dans le sens que le pont est un personnage, parce qu'il est dessiné à l'intérieur, mais aussi parce qu'il réfère à une cage. La cage, puis là, si on peut rejoindre l'abstraction de tantôt, c'est la cage abstraite, le pont. Fait que c'est là où les gens sont coincés sans se rendre compte qu'ils sont coincés. Dans le sens que les gens qui font un hold-up sur un pont, il faut vraiment être coincé dans la vie pour faire un hold-up. Mais si en plus tu fais ça sur un pont, t'es encore plus coincé parce qu'il faut que tu redescendes du pont. Puis en plus, t'es coincé en dessous d'une cage. T'es encore plus. Puis là, tu veux essayer de trouver des moyens de rentrer dans une autre cage qui, elle, est dans une cage. Puis là, ben, tu vas te faire attraper par du monde qui forme une cage parce qu'ils ont des guns, puis c'est la police. Puis... fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai dessiné aussi précisément les choses. C'est que je tiens à mettre l'accent sur la réalité de notre environnement, mais pour en faire un élément d'histoire.
Trop intéressant. On va aller en pause musicale et publicitaire et on vous revient dans quelques minutes pour la fin de cette entrevue.
It's time to make an appointment for your booster dose against COVID-19. Visit quebec.ca/COVID-vaccine to follow the vaccination sequence plan for your area and book your appointment online. To continue protecting yourself against COVID-19 and its variants, get a booster dose and keep following distancing measures, wearing a mask, and washing your hands. The booster dose, the best way to stay protected longer. A message from the gouvernement du Québec.
Venez prêter main forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des préposés à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur? Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
CKUT 90.3 FM, Montreal.
Sur les ondes de CKUT, c'est Alex qui vous parle et on vient d'entendre la chanson du band The OCs, Palace Doctor, donc chanson particulièrement aimée par Étienne qui est avec moi aujourd'hui. Yes. Donc on continue, allô, resalut. Donc on va continuer cette dernière partie de l'entrevue sur la BD Bang Bang Bang, Le Crépuscule des Amochés. Donc, juste pour poursuivre sur les inspirations, là, on parlait des inspirations plus de dessin. Peut-être parler un peu de tes inspirations de création littéraire, parce que c'est toi aussi qui as composé les dialogues. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Absolument. Écoute, j'ai eu sur ma table de chevet pendant un bon morceau de la création de ce livre-là, Bande de colons, d'Alain Denoux.
Mm-hmm.
Ce qui m'a vraiment aidé à écrire au sujet, parce qu'en fait, c'est ça, tu sais, genre, je parle d'un personnage qui est aux prises avec une certaine réalité qui est la sienne, mais à large aussi, je parle aussi, tu sais, un peu de c'est quoi notre monde, c'est quoi un peu le nom des choses, tu sais, le nom du fleuve Saint-Laurent, puis tu sais, la colonisation, un peu, j'en parle un peu, j'effleure le sujet, puis ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir meubler un peu des choses qui sortent de juste comme l'histoire d'un personnage un peu banal, finalement, qui est juste un petit criminel. Mais, tu sais, moi, c'est ça, j'ai eu comme envie de parler de choses plus grandes, puis donc de colonialisme, puis de notre pays, de l'endroit où est-ce qu'on habite, ce qu'on appelle notre pays. Puis aussi, j'ai essayé de garder aussi une certaine poésie dans le discours, parce que j'ai toujours été un grand fan de la poésie comme telle nécessairement, mais plutôt le langage poétique dans un récit. Puis parce que c'est j'ai toujours focusé sur des mots, tu sais, c'est vraiment souvent j'écris des mots comme des mots uniques ou un groupe de 3-4 mots, puis je les garde en tête longtemps parce que je me dis, ah, ça éveille en moi beaucoup d'images.
Mm-hmm.
Puis donc en mettant des images avec des mots qui éveillent chez moi des images, ça, j'espère faire éveiller d'autres images, tu sais. Mm-hmm. Comme faire sortir un sens nouveau de choses comme ça juxtaposées.
Mm-hmm. Mm. Mais là, j'en avais noté d'ailleurs quelques phrases, j'ai envie de les glisser pour les auditoristes. Par exemple, quand t'es sur la pente, on t'aide pas, on te pousse et hop. Sérieux, je trouve ça parfait, c'est très... ça dit ce que ça a à dire. Ou sinon, le rideau de fer s'abat toujours avec toute puissance sur celui en bas. Alors,
oui, parce que si tu l'attrapes en haut, le rideau de fer, on s'entend, il va faire moins mal que si tu l'as
en bas. Effectivement.
Par terre, sur le pied ou sur ta tête si t'es couché au sol.
Oui. OK, peut-être dernière partie à cette question sur la création. Comme créateur de la relève, on peut dire, là, on en parlait un peu, c'est dur de définir le nom, mais c'est quoi, mettons, les plus grandes difficultés que tu as rencontrées pendant la composition de cet album-là et dans sa parution?
C'est encore une très bonne question. Majoritairement, me faire confiance, ça a été très difficile parce que reste que c'est très solitaire comme projet. Tout projet qu'on fait personnellement est solitaire, mais c'est très dur de faire un projet en solitaire, aussi dans l'isolement de chez soi, d'avoir l'entièreté de la création entre les mains. C'est à la fois génial, puis en même temps, c'est quand même insécurisant parce que reste qu'on peut faire tout ce qu'on veut, puis on peut aussi se planter.
Oui, mais c'est ça parce que j'ai posé la question avec un biais, mais je voulais pas parce que ça peut être grisant aussi de cette liberté qui permet...
C'est grisant. Mm-hmm. Puis en même temps, c'est comme, oh, ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive si j'arrive pas à rendre ce que j'ai envie de rendre? Puis, tu sais, c'est là aussi que c'est le fun d'avoir... un milieu de l'aide ou genre juste une immense part de confiance, mais c'est toutes des choses qu'on peut avoir en quantité différente.
C'est très subjectif.
Ouais. Mais c'est ça, c'est quand même difficile de faire un livre, j'ai trouvé, mais en même temps, j'ai trouvé que c'est la plus belle expérience que j'ai jamais fait à date, puis la prochaine, j'espère, va être encore plus incroyable parce que reste que je touche à quelque chose que je réfléchis depuis longtemps, ça mûrit en moi, ça mûrit dans le monde aussi, puis là, je le vois, puis là, j'arrive à faire un morceau de ce que j'ai pensé, c'est déjà énorme, puis ça me permet de connecter des points, tu sais.
Wow! Très bien dit, ben justement, ça fait bien le pont. Avec la dernière question, dans le fond, est-ce que tu peux nous dire un peu sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu es déjà sur autre chose? Où est-ce qu'on peut te voir?
Oui, en effet, je travaille sur de quoi d'autre. Fait que, en fait, je travaille un peu tout le temps, puis j'ai toujours plein d'idées en lien avec d'autres sujets parce que faut se tenir occupé. Mais dans le fond, mon prochain projet est en couleur. Ça, c'est garanti. J'ai beaucoup aimé travailler avec le noir et blanc, mais j'aime beaucoup faire de la couleur dans la vie. Puis je vais refaire du noir et blanc, mais j'aimerais ça sortir un livre en couleur parce que c'est vraiment une autre, c'est un autre travail. Parce que ça ajoute à la fois une complexité, puis ça enlève aussi une sorte de complexité parce que l'œil est plus habitué à la couleur que le noir et blanc. Le noir et blanc a besoin d'être très bien fait pour... donner une belle impression de « Ah, OK, ça a été bien dessiné, la lumière est bonne », tandis que la couleur est comme plus... on dirait que ça passe plus facilement à l'œil, on dirait, de la couleur que du noir et blanc, je trouve, personnellement. Puis, fait que ça va être en couleur, puis je reprendrai normalement les codes de mon premier livre, « Bienvenue les profondeurs », un peu l'apocalypse... de l'industrie plus actuelle aussi, puis un côté complètement surréaliste. Fait que ça serait vraiment ma prochaine route que je prends. Ouais.
Bien, merci tellement, Étienne, pour cette entrevue. On va suivre ton travail. On peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Tu es quand même actif. Tu présentes souvent des dessins. Oui. Est-ce que tu peux nous dire?
Oui, c'est sur Instagram, c'est Bienvenue les profondeurs et mon site web, c'est hôtelsombre.com, hôtelsombre.com.
Je vais mettre les liens dans la bio. Alors, c'est ce qui conclut cette entrevue. Puis,
merci beaucoup.
Merci à toi. Et on va terminer l'émission en beauté avec la douce pièce de Annette Hanscha, Body and Soul. Pièce enregistrée en 1930 qu'on retrouve sur la playlist de Bang Bang Bang, Le Crépuscule des Amochés d'Étienne Prudhomme. L'émission a été réalisée et produite par Alex Allard sur les ondes de CKUT pour l'émission Café. On se retrouve la semaine prochaine. Bon vendredi tout le monde. I'm lost in the dark. Where is the spark for my love? I'm lost in the night, holding the light of my love.
and I'm left in this abandon, so far removed from all that I had planned on. My days have grown so lonely, for I have lost my one and only. My pride has been humbled, but I am his body and soul. I was a mere sensation. My house of cards had no foundation, although it has tumbled. I still am his body and soul. What lies before me, the future is stormy, a winter that's gray and old. Unless there's magic, the end will be tragic and echo the tale that's been told so often. My life revolved about him. What earthly good am I without him? My castles have crumbled, but I am his body and soul. My life revolved about him. Lord knows I'm just no good without him. My castles have crumbled, but I am his body and soul.
Bienvenidos a nuestra emisión quincenal, escuchando América Latina, aquí en CKUT 90.3 FM.
Les informaremos a ustedes sobre el arte, la cultura, poesía y turismo.
También tenemos deportes, información actual y mucho más.
América Latina, ¿eres tú?
América Latina es ella.
América Latina es él.
América Latina somos nosotros.
Argentina,
Bolivia,
Brasil,
Chile,
Costa Rica,
Colombia,
Cuba,
Ecuador,
El Salvador,
Guatemala.
América. Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay,
Perú,
República Dominicana,
Uruguay,
Venezuela.
Quiero ver salir el sol. y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero dormir y soñar caricias contigo.